RDSTU.
Salut les voisins, l'émission qui va suivre est une rediffusion, restez à l'écoute.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, quand les mots font du mal aux enfants, ce sont des insultes, des cris, des phrases assassines, des mots souvent prononcés sous le coup d'une colère parentale, mais qui peuvent laisser des traces durables dans la construction de l'estime de soi chez un enfant. Une campagne de prévention est menée actuellement en France pour lutter contre ces violences verbales. De quoi laisser les parents assez perplexes, il est vrai, ils ont déjà pas mal de pression. De quoi ouvrir le débat, en tout cas, avec vos messages. Écrivez-nous dès maintenant si vous avez soit encore en mémoire les mots qui vous ont fait mal, enfant, ou si vous êtes parent et désemparé. Vos messages postés sur Facebook, sur Twitter ou sinon tout simplement sur notre boîte mail 7milliards@rfi.fr. Pour discuter en studio, Maud Alejandro, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à l'origine du mouvement qui a lancé la campagne de lutte contre les violences verbales aux enfants avec votre association, l'Observatoire de la violence éducative ordinaire. Il y a une autre association également.
Oui, je suis aussi membre de Stop VO, Enfants sans violence. Et c'est ensemble qu'on a souhaité mettre au grand jour ce phénomène.
Et puis vous êtes aussi membre du Haut Conseil à l'enfance. Également avec nous, Nathalie Debois-Grolier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes coach parental. Vous avez publié Élever ses enfants sans lever la voix. Et vous êtes aussi fondatrice de l'association OSE, qui œuvre pour le bonheur à l'école et le bien-être des enfants. Ferdinand Ezembe, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue, fondateur de l'association Afrique Conseil. Vous avez publié plusieurs ouvrages sur les enfants, les adolescents noirs en France, l'enfant africain et ses univers. Notre sujet, les violences verbales faites aux enfants.
Tu devrais pas mettre ce t-shirt. Il te fait des gros bras.
Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un fils comme toi?
T'es une moins que rien.
Heureusement que t'es jolie, ma chérie. Ça t'aiderait peut-être.
Si j'avais su, j'aurais pas fait d'enfant.
De toute façon, tu as toujours été beaucoup plus lent que ton frère.
Maud Alejandro, c'est le spot qui est diffusé actuellement sur des chaînes de télévision et sur Internet.
Exactement, donc sur les réseaux sociaux, sur toutes les chaînes Canal, sur RTL9, France 5, France 24 et puis d'autres chaînes encore.
Des réactions déjà ?
Alors, pour l'instant, elle est très bien accueillie, que ce soit dans le grand public ou les spécialistes ou le monde de l'enfance, puisque c'est un sujet dont on a peu parlé, en fait.
En effet. Et d'ailleurs, nous avons lancé le sujet sur Facebook et voici quelques messages postés par nos auditeurs. Pamphile, qui est au Congo-Brazzaville, nous dit « Moi, j'ai été victime de violences verbales lorsque je vivais chez mon oncle. C'était dur à vivre au quotidien. Aujourd'hui, je m'empêche de le faire vivre à mes enfants. À cette époque, je me sentais humiliée. Et puis un jour, j'ai fugué. Alors, ils se sont mis à ma recherche. » Et voilà, il termine le message par cette jolie phrase « Chers parents, trouvez les mots justes pour la conscientisation. » Ferdinand.
Oui, alors il y a deux choses. Je pense que la société a beaucoup évolué sur la notion qu'un enfant est une personne. Et donc souvent les parents parlaient aux enfants comme à des adultes. Et donc la psychologie a beaucoup évolué et a mené les gens à avoir un autre type de regard sur les enfants et à avoir toute cette innocence. Mais la plupart des parents, enfin, en tant que psychologues consultants, agissent sans conscience de la violence et des effets néfastes des paroles qu'ils peuvent prononcer envers leurs enfants.
On a un internaute qui nous écrit, Lay, probablement de Guinée. Voici ce qu'il nous dit. « Un enfant ne représente rien du tout chez nous. Dans le Fouta, la loi du chef, c'est qu'un enfant ne doit pas s'exprimer au sein d'un groupe d'adultes. » Puis il y a Jenaba, une internaute qui est en Guinée, qui nous dit « Les enfants endurent, mais peu de personnes les comprennent. Enfant, moi j'ai eu des coups durs. » Et puis ça a fini par passer. Diderot est à Yaoundé. « La violence verbale est l'un des principaux éléments destructeurs pour les enfants. Ils sont parfois insupportables, c'est vrai, mais notre travail en tant que parents et éducateurs consiste à les rassurer, à les encourager à bien faire. » Voilà, ils reconnaissent hein, tous que parfois les enfants peuvent irriter les adultes.
starving on their feet, 'cause they don't get enough to eat from God. I can't believe it. Dear God, sorry to disturb you, but I feel that I should be heard loud and clear. We all need a big reduction in amount of tears, and all the people that you made in your image, see them fighting in the street, 'cause they can't make opinions meet about.
Alors tout de suite, un témoignage. Il y a des mots qu'il a su oublier, d'autres qui restent bien ancrés. De père inconnu avec une mère atteinte de troubles psychiatriques, Laïs Loufoque a été placé à sa naissance. Très vite, il est passé de famille d'accueil en famille d'accueil. Et de la troisième famille d'accueil, il se souvient surtout des violences physiques et verbales. Charlie Dupiau l'a rencontré, il enchaîne les cigarettes et il livre sans détour ses douleurs avec les mots.
Ce qui précède souvent les cours, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu chez elle et puis chez d'autres aussi, c'est que, bien évidemment, la première étape reste la violence verbale, de toute façon. Il est rare qu'on m'ait foutu des baffes dans la gueule avant d'avoir bien haussé le ton ou d'avoir bien tenu des propos assez durs. Voilà. Avec un œil de. Enfin, avec des yeux d'enfant de 5 ans, c'est toujours très vite inquiétant aussi quand on voit des adultes hausser le ton. Avoir des gestuelles agressives ou en tout cas présenter une forme d'agressivité dans son comportement, donc c'était même assez terrorisant. Et donc la première année, elle a été assez difficile puisqu'on essayait vraiment de s'apprivoiser mutuellement. Elle a essayé de créer des liens, mais j'avoue que j'étais assez sauvage, donc elle n'y est pas parvenue. Et après, crescendo, bah, c'est parti un peu en live. J'étais plutôt assez turbulent, on va dire, mais j'étais pas non plus hyper actif. Et donc, ma famille d'accueil, qui était assez dépassée par mon comportement, décide de me donner, donc, avec l'accord du médecin du placement familial, du Valium, du Tertian. Donc, c'est des traitements qui sont très très forts, c'est des gros anxiolytiques, voilà, donc c'est quand même, c'est pas des traitements anodins.
Pour un enfant.
Pour un enfant, qui plus est, et donc à cette époque, j'avais pris énormément, énormément de poids. Et donc je faisais des crises de boulimie chez elle.
Elle était seule chez elle ?
Non, elle était aussi, donc il y avait une autre enfant placée qui était très discrète, très calme, enfin tout l'inverse de moi d'ailleurs, et son mari aussi, voilà. Et donc, quand je faisais des crises, c'est vrai qu'elle, elle faisait péter des câbles, parce que des fois, j'allais la nuit dans le frigo, je prenais tout ce qu'il y avait à manger, enfin, c'était n'importe quoi. Elle m'a souvent fait des reproches par rapport à ça, évidemment, mais aussi par rapport à mon poids. Et à un moment donné, on intègre les petites phrases assassines, genre « mais arrête de manger, tu vas exploser », ou des trucs, voilà, tu te trouves pas suffisamment gros. On a tendance à les intégrer dans ce que l'on peut penser de nous-mêmes, en fait.
Vous avez nourri, par exemple, un complexe sur votre poids ?
Ah, très vite, très tôt, oui. Bah, à partir du moment où j'étais chez elle, c'était après un réel complexe, hein, puisqu'elle l'a nourri aussi avec ces phrases-là. Et au final, c'était plus un complexe corporel. Enfin, vous voyez, c'était au-delà même du poids. C'était le dégoût de soi-même. Moi, c'est peu avant mes 10 ans, d'ailleurs, à mes 8-9 ans, il y avait des moments où même prendre une douche était devenu une épreuve, quand même. Parfois, c'est vrai que j'ai pas suffisamment confiance en moi, ou je me trouve pas beau, je me trouve pas joli ou machin. Mais bon, après, je sais d'où ça vient, donc j'essaye quand même de me dire que non, mais c'est dans ma tête, ou voilà. Quand elle me donnait ses médicaments, oui, mais il faut que tu les prennes, mais de toute façon, t'es fou, enfin, vous voyez. Et puis plusieurs fois, quand elle était en crise, moi, je me souviens d'une fois particulièrement, justement, j'étais malade, donc on allait chez le médecin, on était dans la voiture, et elle se met sur le côté parce que j'avais envie de vomir. Et je vomis. Et là, elle sort de ses gonds et elle hurle devant moi et elle dit « Mais je vais te tuer sur le champ !» Vous voyez ? C'est peut-être la phrase qui m'a le plus marqué. Et puis, et peut-être que pour la première fois de ma vie, j'ai eu peur de crever ce jour-là.
l'âge de 10 ans, vous la quittez. À quel moment vous avez compris que tout ce que vous aviez vécu, notamment verbalement, tout ce qu'on vous a dit, n'était pas normal et que c'était pas normal de s'exprimer comme ça envers un enfant, un adolescent?
Moi, je l'ai compris dans ma dernière famille d'accueil, quand j'ai commencé à recevoir vraiment de l'amour de sa part, de l'attention et puis aussi une bienveillance. Voilà. Elle a su manier les bons mots avec moi et elle a su aussi faire preuve d'une adaptabilité énorme. Et j'y suis resté jusqu'à ma majorité.
Quels mots elle a pu avoir qui vous ont marqué, mais dans un sens positif cette fois?
Je me souviens d'une fois où c'était le jour de mes 18 ans. Et elle a pleuré, elle a dit « tu es comme mon fils ». Donc ça, moi déjà... Et puis, après c'était jamais... il n'y a jamais eu de... À part cette phrase-là qui moi m'a aussi beaucoup marqué. Mais vous savez, des fois, c'est pas forcément des phrases très démonstratives, mais... C'est des phrases banales du quotidien, mais qui peuvent faire du bien, en fait. Des phrases qui peuvent être rassurantes, des félicitations quand on a réussi quelque chose, des attentions. C'est très banal, mais c'est très appréciable aussi, parce que ça fait pas mal.
C'est le témoignage de Laïs Loufoque, il en a tiré un livre d'ailleurs, « L'enfer des foyers ». Aujourd'hui, il milite très activement pour la protection de l'enfance. Je voudrais qu'on revienne sur la définition de la violence verbale. Où ça commence en fait? Parce que tous les parents, à un moment donné, un jour ou l'autre, par énervement, peuvent dire des choses désagréables à leurs enfants. Maud Alejandro.
Oui, alors on peut essayer de définir la violence verbale. Donc c'est vrai que ça va des insultes aux cris, mais aussi aux comparaisons, où on met une étiquette à l'enfant. On le dénigre, on l'humilie. Donc on ne touche pas l'enfant, mais on le blesse. En fait, on le blesse intérieurement. Et il faut vraiment se dire, mais si je me mets à la place de cet enfant, qu'est-ce qu'il va se dire? Est-ce qu'il va se dire, mon parent, c'est lui qui n'arrive pas à gérer son émotion, sa colère? Ou est-ce que c'est lui qui va dire, bon, je ne suis pas forcément digne d'être aimé? Ou oui, je suis peut-être lent, ou je suis peut-être maladroit, ou alors oui, je suis moins intelligent que mon frère ou ma sœur. Donc en fait, je pense que pour arriver à définir le sujet d'aujourd'hui, il faut repartir de ce que sont les violences éducatives ordinaires. Et en fait, c'est dans toutes les cultures, dans tous les continents, dans tous les pays, en fait, c'est une pratique très très largement courante, qui touche à peu près 80 à 90% des enfants. Et en fait, on définit cela, donc que ce soit à l'ONU, au Conseil de l'Europe ou en France, comme étant toute pratique coercitive ou punition dans le but de faire obéir l'enfant ou de modifier son comportement qu'on juge indésirable. Et en fait, on pense bien faire. En fait, on pense que c'est pour le bien de l'enfant, parce qu'en fait, si on y a recours, c'est qu'en fait, la société nous dit que c'est bien de le faire, tout le monde le pratique. Donc en fait, socialement, c'est accepté. Aussi, on pense que ça a des vertus éducatives. Et enfin, comme vous le disiez tout à l'heure, les gens ne connaissent pas les conséquences sur la santé de l'enfant. Et ils ne connaissent pas non plus les étapes du développement de l'enfant. Donc, les conséquences sur la santé, c'est quoi? C'est qu'en fait, ils peuvent nourrir, même avec des violences verbales répétées, donc de la baisse d'estime de soi, donc ça c'est la première chose, mais de l'eczéma, de l'obésité, des dépressions, donc des suicides, des comportements antisociaux. Donc ça, c'est la première chose, c'est que ça a des conséquences sur la santé, et le rapport de l'OMS de 2002 le montre très bien. Donc c'est un véritable enjeu de santé publique. Et également, donc, ce qu'on ne connaît pas, c'est les étapes du développement de l'enfant. C'est-à-dire qu'un enfant à qui on prononce ces phrases, en fait, son cerveau est en construction. Donc c'est-à-dire qu'à la naissance, son cerveau de l'émotion est prêt. Le cerveau qui régule la température du corps est prêt. Mais le cerveau qui raisonne n'est pas prêt. Et il faut savoir que plus on utilise des phrases bienveillantes, plus son cerveau va maturer, le cerveau de la raison, le néocortex, et plus il va pouvoir éventuellement changer quelque chose qui n'est pas apprécié. Par contre, si on a recours aux violences éducatives, et bien ces connexions ne vont pas bien se faire, parce qu'en fait, l'enfant va sécréter du cortisol, des hormones de stress, ou de l'adrénaline, qui a trop forte dose. C'est ce qui a des conséquences sur la santé de l'enfant.
Mais alors, il faut se mettre à la place des parents là, qui vous écoutent. Quand je vous posais la question où commence la violence verbale, tous les parents, à un moment donné ou à un autre, prononcent des phrases pas très aimables. Tu as un sale caractère, tu es mauvais joueur, pour un enfant qui se fâche parce qu'il a perdu un jeu. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on va tomber dans une forme de maltraitance, Nathalie de Bois-Grolier?
Alors déjà, je pourrais faire une petite précision. Le mot « enfant » a sa racine latine qui veut dire « celui qui n'a pas la parole ». Donc ça, c'est quand même important de comprendre que...
Mais pour répondre à ma question précisément, où est le curseur? C'est ça la vraie question qui préoccupe les parents à l'heure actuelle. Je ne sais pas, Ferdinand SMB, vous pouvez nous parler de ce curseur, de cette limite?
Oui, alors moi je voulais quand même parler des effets de contexte, et qu'il y a des violences tolérées, acceptées, et qui ont des vertus. Je regarde les entraînements de sportifs, des jeunes dans les équipes de foot et tout ça, il y a une terrible violence. Mais ce sont les parents qui amènent leur enfant dans ces clubs de foot, dans ces clubs de judo, dans ces clubs de danse ou tout ça, où les entraîneurs, ben, ils engueulent les enfants. Et les enfants, ils disent, moi, si on ne m'engueule pas, je ne suis pas motivé. Donc,
c'est vrai que le sport est un bon exemple. Voilà, c'est vrai que souvent, les entraîneurs sont, on va dire, assez cash.
Il y a assez cash. Moi, une terrible violence que j'ai vue dans des clubs avec des gamins où l'entraîneur, il insulte les filles. Et les filles disent, oui, mais nous, si on ne m'engueule pas, on n'est pas motivé.
Il y a aussi des entraîneurs qui n'insultent pas les jeunes qu'ils entraînent.
Oui, mais la plupart, dans la motivation des enfants, il y a une espèce de... Faut se stresser.
Mais Ferdinand, vous ne défendez pas la violence verbale pour autant dans les familles.
Je parle des effets de contexte. Donc, c'est pour ça, il y a peut-être... pas toutes les formes de... Il y a un stress nécessaire pour réussir aussi certains examens.
Est-ce qu'on peut parler de maltraitance quand les mots agressifs se répètent quotidiennement? Et c'est peut-être là le curseur, non, Nathalie Bois-Grolier?
Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais nous, on a été aussi élevés dans cette violence verbale. Donc, en prendre conscience, c'est pas évident. Et moi, je suis assez surpris comment nous pouvons être critiques, nous, adultes, surtout. Et les repas en famille peuvent être une critique constante de son patron, de son chef, de son collègue. Et donc là, déjà, on imprègne, je dirais, l'enfant de critiques. Et puis après, ça va sur la comparaison entre frères et sœurs ou entre cousins. Et donc, c'est une prise de conscience parce qu'on... On glisse vers cette violence. Et quand on a subi soi-même cette violence verbale, voire physique, on a un curseur de sensibilité peut-être moins faible et donc nos mots sont encore plus violents et plus agressifs.
Est-ce qu'il n'y a pas un risque de culpabiliser les parents, néanmoins, Maud Alejandro?
Alors, je voudrais juste revenir en arrière sur la ligne de démarcation, on va dire, entre la maltraitance et ce qu'on va dire les violences moins graves. En fait, nous, ce qu'on emploie comme image, c'est l'iceberg. C'est-à-dire, ce qui est au-dessus de l'eau, la ligne de flottaison, c'est ce que dans une culture donnée, dans un pays donné, à un moment donné, on considère comme étant grave. Tout le monde va intervenir, on va éventuellement appeler les services sociaux, la police, voilà. Par contre, tout ce qui est sous l'eau, c'est ce qu'on admet comme étant normal, et personne ne réagit dans la rue, dans les parcs, dans les magasins, parce que c'est toléré. Plus on prend conscience que ce qui est sous l'eau est de la violence, eh bien, en fait, moins on y a recours et plus la violence baisse. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'à Singapour, les coups de batte en bois sont tolérés, ou aux États-Unis dans les écoles, c'est toléré. Et donc là, c'est vraiment en dessous de l'eau. Alors qu'en Suède, la fessée est au-dessus de l'eau, c'est-à-dire que c'est carrément pas toléré. Personne n'accepterait que quelqu'un donne une fessée dans la rue. Donc en fait, on voit bien que cette idée de démarcation, en fait, toutes ces violences sont de même nature. Ce qui change, c'est le degré. Ça veut dire que le message est, pour éduquer mon enfant ou pour l'accompagner, j'ai le droit de, le fameux droit de faire quelque chose à mon enfant qui contrevient à son intégrité physique ou morale. Donc ça, c'était vraiment pour comprendre cette histoire de curseur de maltraitance, où est la maltraitance finalement. Alors, est-ce que c'est une fois, deux fois, 10 fessées, 15 fois par jour le mot? En fait, on va pas mettre de curseur, nous on va juste dire, prendre conscience de la violence, la fait baisser. Parce que la prochaine fois que je vais dire une phrase comme ça, j'en aurai conscience.
Ferdinand SMB?
Oui, tout à fait, mais je reviens quand même sur... Je suis obsédé par cette affaire de contexte. Il y a des enfants qui comprennent dans quel contexte les parents peuvent être violents si l'intention à la base était bonne pour eux. Et ils peuvent comprendre ce qu'est des violences gratuites. Moi, ce que je vois, c'est des enfants qui se plaignent parce qu'on me tape pour rien. Ils ne comprennent pas pourquoi il y a une violence. Il y a des enfants qui comprennent que mon papa a fait ceci ou cela parce que j'ai été loin dans mon comportement vis-à-vis de mon frère ou de ma petite sœur ou de mon camarade. Et donc la réaction des parents, c'est aussi quand les enfants sentent quelle est l'intention, si elle est bienveillante, ils le vivent pas de la même manière que c'est une violence de type sadique. Well, I've been taking things that I don't wanna take. Slamming other doors and feelings breaking me down. The feeling never lasts, I need to satiate. The feeling that I had before you took me right down. Having you when it starts to get a small high.
Short amount of time before the birds fly by. The lighting in your room was always too low. We said our goodbyes before we said hello. Small space, you changed me. In a crowded place, you isolated me. Just tell me the truth, it'll hurt less, I guess. Just tell me the truth, it'll hurt us, I guess.
While you've been throwing shadows on a long fight, just pulling my feet under, move my face from side. The feeling always linger past the comfortable stage. Made stories up in my head, you can question them now. I touch you in the dark for satisfaction. It's ice in my sentimental attraction. The lighting in your room is always scarlet. Just tell me something right, babe, and I'll believe it. Small space, you change me. In a crowded place, you isolated me.
Just tell me the truth, it'll hurt less, I guess. Just tell me the truth, it'll hurt less, I guess. Just tell me the truth. Just tell me the truth, it'll hurt less, I guess. Just tell me the truth, it'll hurt less, I guess. Just tell me the truth, it'll hurt less, I guess. Just tell me the truth, it'll hurt less, I guess. Just tell me the truth, it'll hurt less, I guess. Just tell me the truth, it'll hurt less, I guess.
I'm numb to the pain. There's no fire, there's no burn. The house down, blame the household. Feed the ego. When will these lies let me go? I'm numb to the pain. There's no fire, there's no burn. The house down, blame the household. Feed the ego. When will these lies let me go?
Just tell me the truth, it'll hurt less, I guess. Just tell me the truth, it'll hurt less, I guess. Just tell me the truth, it'll hurt less, I guess. Tell me the truth, it'll hurt less, I guess. Just tell me the truth, it'll hurt less, I guess. Just tell me the truth, it'll hurt less, I guess. Just tell me the truth, it'll hurt less, I guess. Just tell me the truth, it'll hurt less, I guess.
7 milliards de voisins, c'est maintenant.
On a un message de Tiburce posté de Libreville du Gabon. Il nous dit que très souvent, les personnes qui pratiquent la violence verbale le font par ignorance. Ces personnes ignorent les conséquences psychologiques sur les enfants. Ça peut être endigué par une sensibilisation médiatique, dans les quartiers aussi, par les diverses associations, dans les réunions de parents d'élèves ou dans des conférences publiques. Alors, aujourd'hui, il y a cette campagne qui passe où, très clairement, vous incriminez, enfin... Vous taxez de violence verbale des phrases qui sont prononcées par tous les parents, qui sont anodines, qui semblent anodines, Nathalie de Bois-Grolier. Ça suscite un débat tout de même.
Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le but, c'est qu'on sait que les parents aiment leurs enfants, qu'ils veulent leur bien, et que c'est difficile d'être parent parfois. Mais le but n'est absolument pas de culpabiliser, mais de rendre responsable. C'est-à-dire que j'ai fait des choses avant, je n'étais pas du tout conscient que ça pouvait avoir un impact sur mon enfant, je pensais que c'était pour son bien. Maintenant que je sais que ça existe et ce que ça fait, je peux faire autrement. Et il y a beaucoup d'autres moyens de faire autrement. Et au bout de deux générations, ce qu'on apprend dans les pays qui ont voté la loi, c'est que presque plus aucun enfant...
Qui ont voté la loi, de quoi parlez-vous ?
Alors, en fait, pour faire baisser la violence éducative, il y a deux solutions. La première, c'est de voter une loi civile, donc non pénalisante, pour qu'il y ait une prise de conscience. Et si on associe à cette loi des mesures de prévention et de sensibilisation, la violence va baisser fortement. Donc les pays comme l'Allemagne, la Suède, la Norvège, beaucoup de pays d'Amérique du Sud, tous ceux qui ont voté la loi, au bout de une à deux générations, c'est sorti de leur culture. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la violence faite aux enfants, c'est la même que celle qui était faite aux femmes, mais aussi aux ouvriers, aux employés, aux militaires avant. Ça s'appelait le droit de correction. Et il a été aboli pour tout le monde, pour les femmes, et bien sûr, mais il ne reste que les enfants qui sont les seuls à être sans défense, mais, plus petits et
mais
fragiles.
Justement, pourquoi mettre l'accent sur les mots alors que la France est déjà très mal à l'aise avec les châtiments corporels, puisque je rappelle que malgré les pressions du Conseil de l'Europe, la fessée n'est pas interdite en France au sein des familles alors qu'elle l'est dans de nombreux pays d'Europe. Pourquoi cette campagne sur la violence verbale?
Alors, parce qu'on avait déjà fait il y a 5 ans une campagne sur les violences physiques qui s'appelait La Gifle, vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux, donc avec la Fondation pour l'enfance, on travaille ensemble.
Elle n'a pas eu d'effet.
Alors, politiquement, on a beaucoup avancé parce que dans le livret des familles, c'est indiqué que les punitions corporelles et les humiliations ont des conséquences, peuvent avoir des séquelles sur la santé.
Oui, mais politiquement, on vous répond, en tout cas ceux qui défendent le droit des familles à exercer une autorité sur leurs enfants, on vous défend le droit à la vie privée. C'est ça l'argument.
Le droit à la vie privée, en fait, il n'existe que pour les enfants parce que pour les femmes, on a le droit d'entrer dans la maison. Et nous, on dit que les droits de l'homme ne s'arrêtent pas à la porte de la maison. Et qu'en fait, ça avance beaucoup parce qu'on a inclus dans le texte cadre national de formation de la petite enfance l'interdiction du recours aux violences éducatives et aux humiliations. Ça avance grandement. La CAF s'en est emparée. On a beaucoup en fait d'avancées petit à petit. On a voté la loi en 2016 en France sur ces punitions éducatives et ces humiliations. Elle a malheureusement été retoquée pour des questions de procédure en janvier. Donc, on a beaucoup avancé. Elle était soutenue par le Premier ministre, le Président de la République François Hollande, 350 députés et sénateurs. Donc on a grandement avancé.
Qui a attendu la toute fin de son mandat pour lancer une grande campagne de lutte contre les violences éducatives et faites aux enfants. Ça aurait pu démarrer un tout petit peu plus tôt. Preuve que politiquement, pour le moment, personne n'est prêt à s'occuper des violences faites aux enfants par rapport à le ramdam médiatique autour des violences faites aux femmes, ô combien légitimes, mais par rapport les enfants, n'est-ce pas Ferdinand Ezembe?
Oui, mais je voulais aussi dire, il ne faut pas culpabiliser que les parents, c'est un problème de société, parce qu'à côté de la violence des parents faite aux enfants à travers les mots, il y a aussi la violence institutionnelle, la manière dont on parle, la compétition scolaire est une terrible violence. Oui. Des enfants à qui on dit tu es nul à l'école, tu ne seras rien, ils sont pour certains marqués à vie, donc ce n'est pas seulement les parents qu'il faut dans ce cas remettre, c'est interdire à toutes les instances éducatives d'utiliser des mots violents par rapport aux enfants, parce qu'il y a une forme de violence institutionnelle qui marque, je veux dire, qui est terrible.
Est-ce que dans votre association Afrique Conseil, vous dialoguez avec des familles qui ont souvent perdu des repères culturels, est-ce que ça augmente la difficulté d'être parent à votre sens?
Ah oui, il y a une déparentalisation, c'est pour ça que je dis toujours, quand on dit ne faut pas, il faut dire ce qu'on fait à la place. Et la plupart des parents me disent, oui, mais moi je discute, j'ai fait tout ce que vous dites, je tape sur mon enfant, je parle avec lui, ça fait plusieurs fois que je lui dis la même chose et continue à désobéir. Qu'est-ce que je fais? C'est là où ça coince, c'est que la plupart sont conscients qu'il ne faut pas, mais ils se rendent compte aussi qu'on a une société très laxiste, c'est ce qu'ils me disent, mais tout est permis en France, qu'est-ce que je fais?
C'est une bonne question, effectivement, quand on vient d'une autre culture, d'un pays où effectivement il y a davantage de règles, davantage de coercition aussi sur le plan politique. Alors, la question que posent les parents, Nathalie de Bois-Grolier, en tant que coach parental, vous l'entendez souvent. Oui, d'accord, mais par quoi on remplace? On a dit des choses désagréables à ses enfants sous le coup de l'énervement. En général, c'est rarement prémédité. On ne se dit pas « Ah tiens, je vais lancer une phrase assassine demain à mon enfant parce que ça fait plusieurs jours qu'il m'exaspère, qu'il me désobéit ». Mais par quoi remplacer ces phrases qui certes font du mal aux enfants?
Moi déjà, je propose aux parents pendant une petite semaine d'avoir un papier et un crayon et puis de marquer ces phrases. Voilà, comme ça, on va en prendre conscience et puis on va voir celles qui se répètent régulièrement juste pour réfléchir. Et puis on peut remplacer par ces petites phrases, je dirais, par des petits exercices de relaxation ou de quitter la pièce pour pouvoir respirer.
Quand on sent la tension monter en soi,
Déléguer, par exemple, sur la question des devoirs, quand on sent qu'on n'a pas la compétence ou la patience, ou quand on sent que cette patience nous lâche, de dire stop, on s'arrête, continue, ou stop, je vais demander à ton père s'il peut continuer de t'accompagner, ou passer sur une autre activité. Ça peut être aussi, comment dirais-je, oser s'excuser.
C'est ce que j'allais dire. Comment s'adresser... que doivent faire les parents lorsqu'ils savent qu'ils ont prononcé des paroles blessantes? Eh ben c'est... On ne peut pas rembobiner le film. Hein.
Non, mais c'est oser prendre, oser dire que nos mots ont dépassé nos pensées, qu'on a été maladroit, que vous avez conscience que ce sont des mots qui ne sont pas jolis et qui blessent. Moi, il m'est arrivé, quand j'ai commencé ce processus aussi pour moi, dire ben, je suis en train d'apprendre, c'est pas facile, j'ai dérapé, je m'excuse, mais je continue à faire attention. Et rien que dire ça à vos enfants, moi je l'ai vu avec les miens, et ben ça leur suffit, ça les remet en joie. Et puis ben vous dites ben ok, j'ai dérapé, ben c'est pas grave, je continue à faire attention, à prendre conscience de ce que je dis. Et puis comme on l'a dit au début de l'émission, apprendre à faire des feedbacks positifs, à complimenter et pas toujours à pointer ce qui ne fonctionne pas, ce qui ne va pas, ce qui ne marche pas, prendre plaisir à regarder ce que votre enfant fait, les progrès, en disant « Oh là là, t'as vu au début de ton CP, c'était dur la lecture, ça fait plaisir de te voir lire. Bon allez, viens, on va aller à la bibliothèque. » Ou « J'aime aller à la bibliothèque avec toi. Regarde comment ça a été dur au début. Maintenant, c'est beaucoup plus facile. » Donc, d'encourager,
mesurer
de faire
le chemin parcouru quand il y a des améliorations, Ferdinand.
Oui, tout à fait. Moi, je dis, mon espérance, c'est que les enfants ont besoin de comprendre pourquoi le parent à poser tel ou tel acte. Effectivement, moi, j'encourage les parents à expliquer. Oui, j'étais très énervé hier, je suis désolé. Donc, l'enfant peut comprendre pourquoi son père a posé, ou sa mère, ou son frère. Donc, et ce qui tue les enfants, c'est quand ils ne comprennent pas, qu'ils subissent cette espèce de violence gratuite. Et c'est une démarche difficile pour certains parents de devoir s'expliquer auprès de leur enfant, mais j'encourage d'expliquer leur attitude, leur comportement, leur réaction, et les enfants sont capables de comprendre, même longtemps après, mais je comprends maintenant mon père, et j'excuse tout ce qu'il m'a fait, il voulait mon bien. Mais quand c'est pas expliqué, il y a une espèce de d'indignation, de regret qui fait qu'ils sont mal dans leur peau.
Je pourrais rajouter quelque chose. Très souvent, on est violent avec nos enfants parce qu'on a ramené à la maison des stress et des pressions du travail et que du coup, votre enfant va faire quelque chose de tout à fait anodin, mais là, votre seuil de patience va déraper et quelque part, c'est l'enfant qui va recevoir la colère que vous avez eue dans
votre
travail.
D'où son incompréhension, parce qu'effectivement, il aura peut-être que commis le même acte peu répréhensible à un autre moment qui n'aura pas suscité de violence de la part du parent, et puis là il se demande pourquoi tout d'un coup un tel déchaînement.
Et donc c'est intéressant de faire des pauses et prendre soin de soi en tant qu'adulte avant de rentrer à la maison pour peut-être évacuer des peurs, des rancœurs, des tensions, voire des violences qu'on a reçues au travail pour pas les transposer le soir en arrivant sur les enfants.
Il y a une chose très importante peut-être qu'on peut ajouter, c'est qu'en fait toute violence donnée a pour origine une violence qu'on a reçue. C'est Alice Miner qui parle de ça, Olivier Morel qui a transcrit ses ouvrages en France, dans La Fessée, où oui, la nature humaine est bonne. Et en fait, l'idée, c'est que il faut se souvenir de nous, quand on était enfant, comment on a été puni, qu'est-ce qu'on a entendu. Et quand on se souvient de ça, on peut se souvenir de la blessure qu'on a en nous. Et peut-être qu'en y travaillant, quand on verra son enfant en face, on aura l'empathie de ressentir ce qu'on peut lui faire, et peut-être qu'à ce moment-là, on va s'empêcher de faire le geste qui fait mal. Donc c'est vraiment en revenant sur son histoire à soi, en vraiment prenant le temps de s'arrêter, en se disant, mais c'est un enfant, il a 3, 4, 5, 6 ans. Et la dernière chose que je voulais ajouter, c'est qu'en France, il y a quand même 85% des enfants en France actuellement, en 2017, qui subissent des punitions corporelles. Donc les violences verbales, c'est bien au-delà. Et je pense qu'en effet, on peut changer de paradigme. Et au lieu de dire à l'enfant...
Vous voulez dire que les violences verbales conduisent, pour certaines d'entre elles, aux violences corporelles.
Oui, disons que c'est le premier échelon. Olivier Morel aime bien parler d'une échelle. Et il y a des barreaux. Et on peut les franchir et aller, par exemple, la petite... claque, ce que certains disent la petite claque, peuvent retomber sur un coin de table dangereux et avoir une séquelle physique sur l'enfant. C'est-à-dire qu'en fait, si on s'interdit ces gestes, la violence va baisser. Et il faut savoir que 75% des maltraitances en France ont lieu dans un contexte de punition corporelle.
Vous établissez aussi clairement un lien avec les violences conjugales ou pas ?
Oui, parce qu'en fait, ce qu'on sait, c'est que quand on est frappé, on apprend par l'exemple. Et donc, on apprend qu'on peut être aimé et être frappé, et frapper quelqu'un que l'on aime. Et donc, ça engendre l'adulte qu'on devient ensuite. Eh bien, on a le droit de frapper sa femme, qui est un être on va dire quand même plus faible, comme le parent frappe un être plus faible qui est son enfant. Et donc, ainsi de suite, de génération en génération, on perpétue ces traditions. Et je pense vraiment qu'on peut en sortir parce que les exemples des pays qui l'ont fait en sont sortis. Ce n'est plus dans la culture. Ils ne savent même plus où frapper.
Mais que peuvent faire les associations? Parce que les parents sont tout de même livrés eux-mêmes dans un huis clos avec leurs enfants, en dehors du contexte scolaire, où là, il y a une institution, même si vous évoquiez également une certaine violence institutionnelle sur le plan de la scolarité, Ferdinand Ezembe, que peuvent faire des associations comme la vôtre, par exemple?
Déjà, je me réjouis qu'il y ait une prise de conscience énorme des parents par rapport à l'éducation de leurs enfants.
Ouais, qu'on en discute.
Les gens en discutent aujourd'hui. C'est eux qui viennent et qui posent la question de qu'est-ce qu'on peut faire. Mais ce qu'il faut éviter, c'est du politiquement correct. C'est une société aseptisée où on dit qu'il n'y a pas de violence dans la société. Et non, ça, c'est pas vivable pour eux parce que le quotidien leur prouve qu'il y a de la violence tous les jours. C'est comment vivre, enfin, moi je suis psychologue, hein, comment vivre avec ma douleur, comment vivre avec la violence, comment vivre avec ce qui peut m'arriver dans la vie. Quand on a ce type de discours, les gens y comprennent que voilà, moi je plaide le droit à l'erreur. Bon, un parent peut avoir une erreur une fois et puis réparer. Et donc c'est ce que je dis aux parents, vous pouvez réparer, il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de bons parents, il n'y a pas d'excellents parents. Les gens essayent tous les jours. Et c'est ça qu'ils cherchent, tout simplement.
Qu'est-ce qui fait que, malgré les erreurs que commettent les parents, ils peuvent construire l'estime de soi chez leurs enfants? Puisque c'est ça qui va conditionner la réussite de leurs enfants, la faculté de construire leur identité, leur vie.
C'est la manière dont l'enfant perçoit le projet que les parents ont pour lui. Quand l'enfant sent cette espèce de bienveillance, que les parents veulent du bien pour moi, il garde quelque chose de cette relation et qui fait que ça les construit. C'est comme l'entraîneur qui dit aussi, je veux que vous soyez champion. Et donc, à partir de là, les enfants intègrent que cet ordre, je le reçois pour être champion. Mais quand c'est quelque chose de gratuit, d'inexpliqué, c'est ça qui fait le plus mal aux enfants.
Que demandent aujourd'hui les associations qui sont à l'origine de la campagne de lutte contre les violences verbales, Maud Alejandro?
Alors, on demande clairement le vote d'une loi civile, parce qu'en Europe, 22 pays sur 28 ont déjà voté cette loi. Donc, on est dans les derniers pays.
Contre les violences éducatives.
Voilà, exactement. Donc, il manque l'Angleterre, l'Italie, la France, la Belgique et la Suisse, il me semble. Donc, il faut vraiment qu'on le fasse rapidement, parce qu'on a été sanctionné 5 fois par l'ONU, plusieurs fois par le Conseil de l'Europe. En fait, c'est dans la Convention des droits de l'enfant qu'on a signée en 1990, donc il y a 27 ans. Donc il faut absolument qu'on mette à jour notre pratique du droit qui autorise ce fameux droit de correction. Parce qu'on ne sait pas justement cette fameuse limite. Et c'est celle-ci qui conduit à des dérapages graves et qui fait qu'il y a à peu près 200 000 enfants en danger et près de 300 000 enfants en France qui sont maltraités. C'est énorme.
Comment donner de l'espoir aux parents tout en ne cessant toute l'année de leur dire tout ce qu'il ne faut pas faire et avec des campagnes qui malgré tout sont culpabilisantes?
En fait, il faut leur dire qu'en gros, ils aiment leurs enfants, quoi qu'ils fassent. Je t'aimerai, quoi que tu fasses. Je t'aime inconditionnellement. Ce n'est pas parce que tu auras une bonne note que je t'aimerai. Ce n'est pas parce que tu vas ranger ta chambre. Je t'aime, quoi que tu fasses. Maintenant, il y a des choses qu'il faut que, pour vivre en harmonie, il va falloir peut-être qu'il y ait des règles qu'on puisse vivre sereinement. On va en parler, on en discute. Mais on s'assoit pour en discuter, mais on essaie de ne pas régler par la violence. Sinon, le parent va enseigner à son enfant à régler les conflits par la violence.
Merci à vous tous, en tout cas pour votre participation. Maud Alejandro, vous appartenez à l'Observatoire de la violence éducative ordinaire et vous êtes aussi membre du Haut Conseil à l'enfance. Ferdinand Ezembe, psychologue, fondateur de l'association Afrique Conseil. Vous avez publié Les adolescents noirs en France et puis L'enfant africain et ses univers aux éditions Cartala. Et Nathalie de Bois-Grolier, coach parental, vous avez publié Élever ses enfants sans lever la voix. Vous n'avez pas du tout levé la voix aujourd'hui, effectivement, mais ça s'apprend, c'est ce que vous nous avez dit. C'est publié chez Albin Michel.
Mais ça m'arrive de déraper encore aujourd'hui.
Et vous êtes, c'est bien de le reconnaître, parce que comme ça, au moins, ça déstresse tout le monde. Et vous êtes fondatrice de l'association OSE, qui œuvre pour le bonheur à l'école et le bien-être des enfants. Johnny went to school, sick of getting jumped. Today was the day that he wouldn't run. He's a warrior. He said he's a warrior. Look at Jimmy, always put in work. He stand up like a man when they throw him in the dirt. He's a warrior. He's a warrior.
dressed in black, always wore a hoodie. She's a warrior. She's a warrior. You're a warrior. You're a warrior. Little Mikey, play your guitar. Tell him one day you'll be a ghetto superstar. You're a warrior. You're a for find him queen. Every man now for make his way. Every man now for live this way. Every man now for follow MG. Every man now for find a queen. Every girl, you gotta live this way.
Jean Warrior, vous écoutez bien 7 milliards de voisins sur RFI. Dans quelques instants, la chronique de Marie-Rose Moreau, parents, enfants, d'ici et d'ailleurs.
On est plus le fils de son époque que le fils de son père.
Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs.
Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs. Ce sont les chroniques de Marie-Rose Moreau chez 7 milliards de voisins. Bonjour Marie-Rose Moreau.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes pédopsychiatre, vous dirigez la revue transculturelle L'Autre. Et aujourd'hui, on s'interroge ensemble, a-t-on le droit de battre un enfant? Est-ce que ça sert à quelque chose? C'est un sujet qui est très polémique, pas seulement d'ailleurs dans les sociétés traditionnelles où les adultes ont vraiment le pouvoir sur les enfants, mais il suffit de voir les débats sur la fessée en France. C'est un pays qui n'a toujours pas interdit la fessée malgré les pressions du Conseil de l'Europe.
Alors effectivement, à plusieurs reprises, la France a été tentée d'interdire cette violence par la fessée, mais aussi toute marque physique. Elle ne l'a pas fait, contrairement donc à la Suède, qui depuis 1979 donc interdit toute forme de violence, y compris donc la violence dite éducative, hein, celle qu'on fait pour que les enfants obéissent. C'est une des premières au monde, contrairement donc à tous les autres pays qui ne respectent pas les droits des enfants. Et le Comité des droits des enfants de l'ONU l'a plusieurs fois dit, mais seule la Suède l'interdit. Et en même temps qu'elle interdit la fessée, elle a organisé un soutien très important à la parentalité. Et c'est une loi, on pourrait dire, très équilibrée dans le sens où elle, à la fois elle s'occupe de l'enfant et des parents.
C'est intéressant que vous parliez de soutien à la parentalité parce que quand nous faisons des émissions sur ce sujet-là, bon nombre d'auditeurs, notamment des enseignants, il faut savoir que bien sûr les châtiments corporels à l'école sont interdits dans bon nombre de pays, évidemment dans tous les pays développés, mais pas seulement, hein, dans bon nombre de pays d'Afrique, mais il y a beaucoup d'adultes qui disent « Oui, mais comment on fait si on ne peut pas donner une tape sur les mains, une fessée ?» Il ne s'agit pas d'une grande violence, mais quelle aide à la parentalité pour faire autrement pour faire respecter des règles, pour faire respecter l'autorité.
L'enjeu, il est là. Il est, pour moi, il n'est même pas seulement éthique. Bien sûr, il y aurait l'idée de respecter les enfants, de respecter leur intégrité, de ne pas les frapper lorsqu'ils ne se comportent pas comme on voudrait qu'ils se comportent. Il y a cette dimension-là qui est une dimension presque démocratique. Mais de manière beaucoup plus pragmatique, il faut dire que la violence appelle la violence. Un enfant à qui va obéir simplement parce qu'il a une fessée ou une gifle à l'école ou dans sa maison, ce mode-là va devenir le seul mode finalement qu'il comprend. Il va falloir augmenter la violence, il va falloir modifier la relation constamment comme ça. Il faut dire que la violence est le pire des moyens pour se faire entendre entre parents et enfants.
Inefficace ?
Ben oui, inefficace, ça ne marche pas bien puisqu'à chaque fois ça s'épuise. Il faut répéter, il faut en refaire.
Et qu'est-ce qu'on répond aux adultes qui estiment que sans châtiment corporel, il n'y a plus d'autorité, donc plus d'obéissance, plus de respect à l'adulte ?
Alors, on leur répond que la question de l'autorité, elle est légitime. C'est légitime que les parents puissent transmettre, dire, mettre des limites, protéger. Mais il faut utiliser des moyens qui fonctionnent et des moyens qui n'entraînent pas de la douleur. On sait maintenant, et en particulier depuis cette loi de 79 en Suède, la violence, elle entraîne des inhibitions, c'est-à-dire j'arrive plus à utiliser mes moyens.
Pour l'enfant.
Elle entraîne de la douleur, elle entraîne des cauchemars, des inquiétudes, des peurs.
Qui gênent le cerveau, qui gênent l'apprentissage, par exemple.
Ça gêne l'ensemble des compétences des enfants, mais en particulier les compétences intellectuelles. Ça gêne les apprentissages, ça gêne la relation, puisque l'enfant aura peur de dire des choses à ses parents dans la mesure où il peut se faire frapper. Donc ça modifie totalement la relation entre les enfants et les adultes et ça entraîne de la violence. L'enfant lui-même ne saura pas réagir autrement à cette violence que par de nouvelles violences avec ses camarades ou ensuite lorsqu'il sera plus grand.
Donc, conclusion, ne pas battre un enfant.
C'est pas bien sur le plan moral parce que ça empêche l'enfant d'apprendre des choses de base et puis ça le met en difficulté, ça l'empêche d'utiliser ses compétences et ça le rend malheureux. Donc c'est dommage qu'on soit dans cette position-là.
Et nous renvoyons au livre de Daniel Delanoë, Une forme élémentaire de la violence, qui est paru l'année dernière, que vous avez préfacé, il me semble.
C'est ça.
Merci Marie-Rose Moreau. Prochaine chronique très bientôt chez 7 milliards de voisins, les chroniques parents, enfants d'ici et d'ailleurs, bien sûr, sont à réécouter sur l'appli RFI Pure Radio. Dans la liste des magazines, vous cochez 7 milliards de voisins. C'était la chronique de Marie-Rose Moreau. Merci à toute l'équipe de 7 milliards de voisins. Lundi, drame chez les riches quand l'argent ne fait pas le bonheur. Jalousie dans les fratries, héritage maudit, enlèvement sauvage. Mais quelles sont donc ces histoires vraies chez les très riches qui dépassent parfois la fiction? Rendez-vous lundi.
Milliards de voisins, c'est fini.